à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles sur Studio ZF 91.1 FM. Aujourd'hui, c'est une mission consacrée à notre événement de fin mai, début juin, qui est notre quinzaine italienne. Voilà, pendant deux semaines, on va diffuser des films italiens, six films italiens, trois films de patrimoine et trois films actuels, c'est-à-dire des films sortis en 2022 et 2023, disons, non, c'est 2021 pour le cas d'un film. Pour en parler, j'ai avec moi deux personnes. J'ai Jean-Claude à nouveau qui m'a rejoint déjà pour l'émission précédente et qui revient nous voir pour en parler.
Bonjour.
Bonjour. Et j'ai Michel Joanny de l'ACFIDA qui est le partenaire de l'événement de la quinzaine italienne. Bonjour, bonjour Michel.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors j'aimerais commencer par toi parce que ça fait pas mal d'années que Cinéphile et l'ACFIDA sont ensemble pour proposer cette quinzaine italienne. Peux-tu nous présenter déjà un peu l'association et puis le partenariat un peu historique qu'il y a entre Cinéphile et l'ACFIDA ?
Avec plaisir. L'ACFIDA, sous cet acronyme un peu bizarre, c'est l'Association culturelle franco-italienne Dante Alighieri. C'est une association qui a été créée il y a 25 ans avec pour objectif de faire se rencontrer des personnes qui aiment l'Italie, qui parlent l'italien pour certains, et de diffuser la culture italienne, donc au travers de cours de langue. Il y a une cinquantaine d'élèves chaque année dans nos cours d'italien, par des conférences sur l'art italien, des voyages, et on part une dizaine à Milan la semaine prochaine. Des ateliers de cuisine aussi, c'est important, de la diffusion de la culture par la cuisine. Il y a une chorale qui est un peu en sommeil, mais qui était aussi l'occasion de rencontres autour de l'italien. Et puis le cinéma, puisque je crois l'année suivant la création de l'association, des contacts ont été pris avec Cinéphile et est née l'idée de cette semaine du cinéma italien qui mêle du film contemporain et du film du patrimoine. Et donc la semaine s'est transformée en quinzaine et ça fait donc, je crois que ça sera la 23e ou 24e session de ce festival de cinéma.
On est sur 23 ans de collaboration, alors, à peu près.
Voilà, oui.
c'est super chouette. Alors, on va revenir un petit peu sur la programmation de cette année. On est sur 6 films, donc comme je l'ai précisé, d'abord 3 films de patrimoine qui sont Passion d'amour de Ettore Scola, Théorème de Pier Paolo Pasolini et Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini. Ensuite, nous avons également 3 films contemporains Interdits aux chiens aux Italiens, qui est un film que peut-être vous avez entendu parler parce qu'il est déjà passé dans la programmation de Cinéphile, mais le film a eu un tellement gros succès et il y a eu beaucoup de demandes de rediffusion qui fait que on le reprogramme avec grand plaisir parce que c'est un film qu'on aime beaucoup et qu'on défend beaucoup au sein de Cinéphile. Ensuite, nous avons Il Boemo de Petr Vaclav, qui est un film alors italien et tchécoslovaque, parce que le réalisateur est tchécoslovaque et qui raconte l'histoire du compositeur d'origine tchécoslovaque mais qui a principalement œuvré en Italie, qui s'appelle Joseph Mislivet. Pardon, t'arrives mieux à le dire que moi, Jean-Claude, le nom du compositeur.
Alors moi, je dirais Joseph Mislivecek.
Voilà, Joseph Mislivecek, voilà. Ouais. Qui est un compositeur dont je n'ignorais totalement l'existence et dont la vie est racontée dans le film. Et Marx peut attendre de Marco Bellocchio, Marco Bellocchio qui est un auteur important en Italie, mais qui, malheureusement, son film n'a pas été diffusé en France, en fait. Il est sorti en 2021 en Italie. Mai 2021, je pense que vous savez à quelle période on était. C'était en plein moment des fermetures des cinémas et du Covid. Donc le film a malheureusement pas pu avoir de sortie en France, il a pu avoir une sortie sur Ciné Plus par exemple. Il a eu une diffusion sur Ciné Plus, mais il a pas eu de sortie cinéma. Donc c'est vraiment un petit événement parce que c'est vraiment un film inédit qui a été rarement projeté en salle en France. Quelques festivals, mais très peu. Marx peut attendre, c'est un petit peu aussi un événement de l'avoir à Cinéphile. On va un petit peu parler de ces différents films là.
Tout a commencé ici, en Italie, à l'ombre du Mont Viso.
Antonio, imbécile.
C'est dans une de ces maisons que mon grand-père et ma grand-mère ont habité.
Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ».
Pourquoi ils ont écrit ça, papa ?
Pourquoi ? Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends ? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite.
On ne joue pas avec la nourriture.
Il fascisme.
Forza Gino !
Le petit oiseau va sortir.
Menteur ! Je vois pas l'oiseau.
J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée.
Et alors, on joue avec la nourriture maintenant ?
Ton retour concernant ce film-là, qu'est-ce qui t'a touché dans ce film ?
Alors, ce film est intéressant à beaucoup d'aspects. Et je pense que c'est ça aussi qui explique le succès qu'il a eu. Et c'est un film qu'on peut revoir. Moi, je l'ai vu il y a 2 mois. Et je le reverrai avec grand plaisir parce que la première fois, je me suis plus attachée à l'histoire. Je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire. Qu'au détails de l'animation, puisque ce sont des figurines animées, avec des décors faits de bouts de carton et de bouts de légumes qui sont tout à fait fantastiques. Et j'aimerais bien revoir pour justement m'attacher plus à cet aspect formel du film qui est tout à fait intéressant. Mais donc, le premier aspect, c'est interdit aux chiens et aux Italiens, un bout d'histoire au travers d'une famille de l'émigration italienne et de l'immigration italienne en France. Et finalement, c'est je trouve intéressant de passer ce film dans le cadre de cette collaboration avec Fida Cinéphile parce que il raconte beaucoup de l'histoire finalement de ceux qui ont créé ces associations italiennes, bon, comme la nôtre, mais les associations italiennes en France, pour une génération qui souvent n'avait pas connu l'Italie, qui est d'immigration, une très forte immigration dans les années de l'entre-deux-guerres, en fait. Et j'aurais une telle volonté d'intégration de la part des enfants, peut-être par réaction à ces affiches interdites aux chiens et aux Italiens. C'est quand même, c'est d'une cruauté insigne. Et donc, j'ai connu pas mal de gens dans ce cas qui m'ont dit « Nos parents voulaient tellement s'intégrer et que nous soyons intégrés qu'ils ne nous parlaient pas italien. L'italien était interdit à la maison. » Et donc, la culture, elle s'apprend autrement. Le retour aux origines ne passait plus par la langue. Et je trouve que ce film raconte très très bien cela, autour de l'amour entre un homme, un jeune homme, et sa grand-mère. Voilà.
Oui, puisque le film, alors pour préciser un petit peu, le film en fait a que presque deux voix en fait, c'est-à-dire le réalisateur qui narre en fait l'histoire qui intervient même sur les moments du film, on voit sa main sur quelques moments, enfin oui. Il intervient sur les décors, enfin comme s'il était un peu le chef d'orchestre de son passé un petit peu ça, mm-hmm. et de son héritage familial, il y a quelque chose d'assez joli là-dedans, et elle avoue la grand-mère qui est jouée par Ariane Ascaride, voilà, et donc ouais, ça se joue beaucoup sur ce dialogue entre ces deux voix où la grand-mère parle à son petit-fils. On va abréger sur Interdit aux chiens italiens parce que on a beaucoup de films encore à citer. Le deuxième film qui sera diffusé lors de cette quinzaine, c'est Passion d'amour d'Ettore Scola.
Capitano, ora che è cominciato ad ambientarsi in questo posto lontano dalla vita, dalle idee, da tutto, come dice il nostro colonnello, rimpiange molto la città?
Beh, la vita che vi si conduce è certamente molto diversa.
No, non si allarmi. Non si allarmi, è mia cugina.
Non immaginavo che nella voce umana potesse esserci un suono così orribile.
Convulsioni nervose. Isteriche, se preferisci una parola di moda.
Come esprimere con le parole la bruttezza di quell'infelice?
In quel momento avrei dato tutta la vita che mi resta, in cambio di un'ora di bellezza.
Oh, Giorgio, dove è stato?
Quella donna si lascia morire per lei, bel capitano.
On va très rapidement passer sur celui-là parce que bon, nous aussi, on a envie de découvrir des films aussi sur grand écran. Il se trouve que voilà, c'est un film que tous les trois nous n'avons pas vu encore. Mais moi aussi, c'est avec impatience parce que j'aime beaucoup Ettore Scola. Donc c'est un film que je connaissais pas de lui. Donc je suis très impatient de le voir. Jean-Claude, je crois que tu as fait quand même des petites recherches sur le film, si tu peux nous en parler un petit peu.
Oui, alors donc Passion d'amour, c'est un film de 1981 qui est passé au Festival de Cannes avec quelques acteurs français dans des rôles principaux comme Bernard Giraudot, Jean-Louis Trintignant, Bernard Bliot qu'on retrouve dans leur jeunesse. Il faut resituer, je pense, Ettore Scola dans l'histoire du cinéma parce que c'est vraiment un des grands réalisateurs du cinéma italien. Mais il est surtout connu pour des comédies très percutantes et très drôles, mais aussi très salaces. Alors, si je recite dans les années 70, Affreux, Sales et Méchants, La Nuit de Varennes, La Terrasse sont plus des comédies par contre. Mais bon, Affreux, Sales et Méchants, ça va parler à beaucoup de gens. Le dernier film que j'ai vu de lui s'appelle, qu'il est étrange de s'appeler Federico. C'était oui. Sur son ami Fellini, parce qu'en fait, Fellini et Ettore Scola, ils ont ensemble une passion de départ qui était la caricature. Ils étaient caricaturistes dans des journaux et c'est comme ça qu'ils ont commencé avant de se lancer dans le cinéma. Alors sinon, le film, il est extrêmement étrange. C'est un militaire interprété par Bernard Giraudot, qui est muté dans une garnison isolée dans les Alpes parce que il est à l'origine d'un scandale amoureux. Dans son nouveau contentement, cet officier va rencontrer une femme extrêmement étrange qui s'appelle Fosca, qui est la cousine du colonel, lequel est commandant de cette garnison. Et cette jeune femme, elle est vraiment très laide, elle est malade nerveusement et par contre, elle possède une énorme sensibilité, une grande sensibilité et une énorme culture qui va donc, tout cela va fasciner le personnage interprété par Bernard Giraudot. Voilà, donc le film Passion d'amour, c'est un film oui, sur la laideur, un personnage féminin extrêmement monstrueusement laid dans le film. Alors pas dans la réalité, hein, je suis allé voir quand même les photos de l'actrice Valeria Dobici, qui est une très belle femme, mais par les maquillages, on a réussi à la rendre effectivement très laide. Donc c'est un film absolument étrange, c'est un film qu'il faut absolument voir, qu'il faut absolument découvrir, encore une fois. Bon, c'est un film qui n'est pas connu des Torrescola, et c'est bien de oui. voir également cet aspect de son cinéma.
Tout à fait. On va passer ensuite au troisième film qu'on va diffuser, qui est Il Buemo de Petr Vaclav.
Dio mio, per favore, te ne prego, concedi una vita di musicista a me, con mea musicam te onorerò.
Eccolo, Giuseppe Mislicece.
Mislicece.
È un musicista molto dotato.
Questa vostra musica è talmente bella.
Mio padre non voleva che diventassimo musicisti. Ho bisogno di firmare almeno una scrittura, altrimenti è la fine. Talvolta è meglio commettere piccoli errori, ma lasciare parlare i sentimenti.
Stai attento però, non giocare con il fuoco.
Non mi abbandona. Non mandami.
Nella sfortuna a volte sia fortuna. Scriverete per la Gabrielle.
Morta mi volete!
Se c'è una che conosce le regole della musica e della poesia, quella sono io.
Scriverò le mie prossime opere.
Siete in pericolo, amico mio.
Sie sind ein gebildeter Ehrenhafter Mann. So können's doch nicht leben.
I gusti cambiano in Europa. Più sentimenti, più interiorità. Questo vuole il nostro presente.
Avete un gran talento.
Non potete rompere così la nostra amicizia.
Mi sono ingannato sul mio destino.
Come maestro, sono finito.
Volcano, basta. Non buttarti sul signor Mislicek in questo modo.
Donc voilà, sur la, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la vie du musicien et compositeur Joseph Mislicek. J'espère vraiment pas écorcher, j'aime pas qu'on écorche les noms, mais voilà, les prénoms, les noms tchécoslovaques, c'est un peu difficile à prononcer pour moi. Qui raconte l'histoire de ce compositeur que personnellement, je ne sais pas si c'est ton cas Jean-Claude, mais que je ne connaissais pas.
Pratiquement personne ne le connaissait.
Ouais. Personne ne le connaît.
Voilà, et le fait qu'il s'appelle Joseph Mislicek peut être une des explications,
c'est possible.
Aussi bizarre que ça puisse paraître, enfin pas la seule, mais de la méconnaissance qu'on a, parce que quand on s'appelle Mozart, c'est quand même beaucoup plus facile à retenir que Mislicek.
Et Mozart l'admirait beaucoup.
Voilà, ils ne sont pas de la même génération, ils se rencontraient alors que Mislicek était adulte, on va dire El Bohemo pour être le surnom sous lequel on le connaît, qui est plus, sonne plus italien, mais il était adulte quand il a rencontré Mozart, et c'est vrai que le jeune Mozart était absolument en admiration devant ce Il Bohemo qui est un très très grand compositeur, qui a été redécouvert par des spécialistes très récemment. Et le film montre bien la vie donc de ce jeune compositeur qui est arrivé tard en Italie, parce qu'au départ il avait des obligations militaires dans son pays d'origine, mais en fait c'est vraiment en Italie qu'il a fait sa carrière, et c'était vraiment le plus grand compositeur que les Italiens admiraient à l'époque. On lui a dédié les plus grandes salles de théâtre. Ça veut pas dire qu'il a vécu dans la richesse, mais ça c'est un problème aussi de l'époque. Les musiciens n'étaient pas considérés comme on pourrait les considérer maintenant, et même Mozart par exemple était très très mal vu dans certains pays, parce qu'il avait eu l'heure de déplaire à une princesse ou à une reine, et sa carrière était fichue dans ces pays-là, quoi. Donc voilà, on a un auteur très prolifique, donc il a 14 ans de plus que Mozart, et on découvre, on le suit à travers une vie à la fois passionnante et tragique, puisque dès les premières images, ça j'en parlerai pas, je laisse les spectateurs le découvrir. La vie de ce compositeur a été quand même extrêmement tragique.
Oui. Mais oui, et puis moi, ce qui me plaît dans le film, il y a quand même, je sais pas si c'est une volonté aussi de critiquer une certaine ce certain milieu de l'époque qui montrait avec une certaine un peu vulgarité, quoi. Il y a des moments très crus dans la façon dont c'est montré, dont les personnages sont contextualisés, qui des fois m'a provoqué un certain malaise qui, je pense, est voulu. Mais il y a un peu la volonté, je trouve, de montrer que le personnage est un peu perdu dans cet univers-là qui finit par un peu être déconnecté de d'un milieu dans lequel il se reconnaît pas totalement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Oui, on a ça pour Mozart aussi.
Voilà, hein. Il y a ça pour Mozart aussi, bien sûr.
Il y a quand même des films qui l'ont bien montré. Mozart, il était à la fois un génie, et puis c'était aussi un homme, et qui était capable de péter, de roter, de faire les pires pitreries, enfin, se conduire comme un gamin. Mais ça reste, n'empêche, un génie absolu du 18e siècle.
Bien sûr, mais Mozart, on sait qu'il est... Mais moi, je trouve, dans le film, on montre que lui, il est obligé de un peu s'accommoder à ces modes-là, mais que finalement, il s'y reconnaît. Il s'y reconnaît pas bien, comme je trouve que le fait qu'il soit un étranger en Italie est souvent un peu mis en scène dans le film, que ça, c'est son origine est, on lui est souvent un peu remis devant lui. Voilà, je trouve qu'il y a un peu cette thématique là qui est abordée, qui, moi, m'a assez plu. Et ouais, je trouve la scène de dialogue avec le roi, par exemple, montre bien ça, où on est devant lui et quelqu'un d'assez c'est assez dégoûtant, hein. Je vais le dire, bah, il fait ses besoins devant lui, enfin voilà, il y a toute une scène comme
c'est
ça.
C'est vrai qu'on a l'impression d'être sur une autre planète, hein,
mais ouais, bon, voilà, c'est ça. Et lui, on le montre, on le voit un peu décontenancé par rapport à ça, quoi. C'est souvent, il est assez muet, assez mutique, souvent, ce personnage là
ils peuvent que se soumettre à l'autorité, parce que c'est de là que vient l'argent, c'est de là que vient leur possibilité de s'épanouir dans leur art. C'est ça, et pour ça,
pour moi, il y a un peu des pistes sur lesquelles le réalisateur donne pour expliquer pourquoi c'est quelqu'un qui n'a pas réussi à passer à la postérité, alors qu'au moment où il composait, c'était quelqu'un de très admiré. Et je pense peut-être l'idée qu'il soit étranger, justement, qu'il soit peut-être pas accoutumé à ses modes, à ses habitudes, à ses codes, a peut-être joué au fait que l'histoire n'a pas voulu le retenir, quoi. Et voilà, je trouve que le film aborde ça avec à plein de pistes, en fait, différentes.
C'est pas seulement un biopic, c'est vraiment un très beau film.
Exactement.
On peut le voir sur grand écran parce que c'est sublime, et puis la musique est absolument magnifique, et c'est une vraie découverte.
Ouais. En parlant
de... cette découverte, je suis extrêmement curieuse de redécouvrir quelqu'un qui a une stature équivalente à celle de Mozart et qu'on a complètement passé.
Ouais, souvent, c'est des femmes qu'on oublie, on les redécouvre actuellement, et là, pour une fois, c'est un homme.
Mais il y a des hommes, ouais. C'est toujours assez passionnant, de toute façon, ces figures historiques que l'histoire n'a pas retenues et dont on revient sur leur vie. Je trouve ça toujours assez passionnant parce que ça permet toujours un peu de mener l'enquête de pourquoi. Pourquoi ces personnes-là ne sont pas passées à la postérité. Je trouve ça toujours. Il y a toujours plein d'éléments de réponse qui sont possibles. Et ça nous permet de replonger dans des contextes historiques. Voilà, c'est toujours des films assez passionnants. Donc, c'est un film qui est passionnant à la fois pour sa richesse cinématographique, parce qu'il y a comme tu dis, il y a une très belle réalisation, des très beaux décors, très beaux costumes, une très belle reconstitution historique. Et en même temps, historiquement parlant, c'est aussi un film qui, je pense, a son importance parce qu'il parle de quelqu'un qu'on a oublié. Voilà.
Tout à fait.
On va faire une petite pause après ces trois films. On va tout simplement écouter un morceau de Il Boemo, parce que on en entend dans le film, mais c'est aussi une façon de le représenter dans l'émission, en écoutant un de ces morceaux en entier. On se retrouve tout de suite après.
Thank you.
Vous êtes de retour sur Studio ZEF 91.1 FM dans l'émission Au fil des bobines, l'émission de cinéphiles. On poursuit les films de notre quinzaine italienne. Le quatrième film qu'on va diffuser, qui sera aussi le dernier film de cette quinzaine, qui clôturera cette quinzaine, c'est Les aventures de Pinocchio de Luigi Comencini.
Mi ha fatto di legno. Poi, non so perché, è venuta la fata e mi ha fatto diventare bambino. Però mi ha detto...
Saprai far felice il povero gemetto. Lui desiderava tanto un bambino.
Beh! Fuori!
Quattro soldi! Oh, al ladro! All'anno!
Ho perso la strada. Ho paura. Chi mi dice dov'è la casa del mio babbo?
Se non stai buono e non ubbidisci, io ti faccio tornare burattino.
Chissà come staranno in pensiero i tuoi genitori, eh?
Tanto la mia mamma non ce l'ho e mio babbo non so dov'è.
Sorti en 1972, hein, je précise bien la date parce que je pense que Pinocchio, vous connaissez déjà le conte original, mais vous connaissez aussi via ses diverses adaptations, je pense notamment celle de Disney, ou plus récemment celle de Guillermo del Toro qui a été fait assez récemment. Et donc Pinocchio, voilà, je suis content que Pinocchio soit dans cette programmation parce que il y a eu pas mal d'adaptations de Pinocchio ces derniers temps. Il y en a eu deux en 2022, un remake du film Disney et l'adaptation de Guillermo del Toro, et que je trouve en plus que c'est une œuvre qui a eu plein d'adaptations et qui sont toutes assez différentes. Voilà, Pinocchio c'est un conte que j'aime vraiment beaucoup et qui le conte de l'original déjà est pas simple à adapter parce qu'en fait il a été écrit sur plusieurs années en fait, sur plusieurs temps. L'auteur en fait n'avait pas vraiment
dans un journal en fait,
hein. Ouais, c'est ça.
Et ça a eu un tel succès que d'ailleurs il faisait mourir Pinocchio à la fin.
Oui.
Les lecteurs jeunes et moins jeunes ont tellement aimé le conte qu'il l'a réécrit et il en a fait un ouvrage
quoi. Et en fait il savait pas bien où aller dans l'histoire en fait. Quand tu lis le conte, il y a plein de sous-intrigues en fait, il y a plein de choses. Le film brasse énormément d'aventures, ça s'appelle d'ailleurs Les aventures de Pinocchio. Et donc c'est pour ça que toutes les adaptations sont super intéressantes parce que elles vont pas forcément tout le temps adapter les mêmes choses du conte déjà, et en plus chacun vont avoir un peu une interprétation de certaines choses qui sont assez différentes, notamment sur la fée bleue qui est pas tout le temps représentée de la même manière selon les adaptations. Qui des fois peut être vu comme une vraie figure maternelle et qui des fois peut être vu comme une figure qui peut être un peu critiquable.
Moins sympathique,
et c'est le cas de Comencini, où la fée bleue n'est pas nécessairement très sympathique. Mais voilà, on va en parler un peu plus en détail. Vous, est-ce que vous avez vu déjà ces adaptations de Pinocchio?
Ah ben moi je l'avais vu il y a 50 ans.
Lors de la sortie du film.
Et je serais très très contente de le revoir parce que c'était un film qui était marquant. J'avais dû le voir, je pense, avec mes enfants qui étaient déjà un petit peu grandés. Voilà, donc ça me rappellera des souvenirs.
un bain de jouvence, un Pinocchio.
C'est ça. Et toi, Jean-Claude
Moi, je l'ai vu, j'irais peut-être une trentaine d'années, mais ouais. Sous forme de DVD, donc ça ne vaut pas le grand écran, c'est une évidence. Mais c'est un film qui m'a marqué. Alors déjà, effectivement, moi, étant enfant, j'ai adoré les Walt Disney, je continue à en adorer encore certains, mais c'est vrai que Walt Disney, quand ça passe par la moulinette de Walt Disney, les histoires, elles sont quand même beaucoup trahies et... l'empreinte que ça peut laisser dans la tête, dans la mémoire d'un enfant, ça peut être aussi dommageable sur certains points. Alors, il y a le plaisir qu'on a eu à le voir. Donc ça, c'est quelque chose dont on peut remercier Disney au niveau de notre enfance. Mais en même temps, on croit connaître Pinocchio à travers Walt Disney, alors que Walt Disney, il a fait sa version personnelle qui est très éloignée de celle que Collodi. Collodi, c'était quand même quelqu'un qui était assez anarchiste et qui était très critique par rapport à la société du 19e siècle, oui. Une Italie très pauvre, hein, de gens miséreux. On a du mal à imaginer à quel point dans les campagnes la vie était dure, était difficile. On a parlé tout à l'heure avec justement le film d'animation interdit aux chiens, aux Italiens. Et Comencini, lui, replace tout ça dans ce contexte-là. Et ça rend quand même le travail beaucoup plus intéressant, le film beaucoup plus intéressant, même si Comencini, lui aussi, va mettre son empreinte personnelle sur le film et en faire aussi un film en même temps de Comencini quand même. Mais voilà, donc moi je pense que l'intérêt de voir le film de Comencini, c'est justement de revenir beaucoup plus aux origines du conte et d'insister sur son aspect politique et sur l'aspect social douloureux dans lequel l'histoire baigne. Et puis en même temps, Pinocchio, c'est aussi à la fois une ode, quelque part, à la désobéissance, même si Pinocchio, au cours de son trajet, il va être de multiples fois puni par rapport aux sottises qu'il peut faire. Mais en même temps, on sent que Comencini, il est quand même complice plus des sottises que d'un enfant qui serait sage et qui aurait une vie beaucoup moins nuancée. Voilà, donc c'est vraiment une histoire absolument magnifique. Alors en fait, au départ, Comencini, il avait fait cela pour la télévision, oui, avec une série, je crois, de 6 téléfilms. Exactement. De 52 minutes. Et c'est à partir de ce matériau-là, avec des coupures évidemment, qu'il a fait un film pour le cinéma.
C'est ça.
À partir de ce matériau.
Qui a quand même sa durée. Le film fait plus de 2 heures. Le film a été quand même pas mal coupé. Dans son adaptation, mais quand même le film est assez conséquent, ce qui raconte beaucoup de choses, et il fait sûrement partie des films d'adaptation de Pinocchio qui essayent le plus de reprendre des éléments du livre, il est pas fidèle à 100% parce que j'ai pas vu la série, donc peut-être que la série fait que le livre et la série sont très proches, mais déjà dans le film il essaie de reprendre déjà beaucoup d'éléments qui sont pas forcément dans toutes les adaptations. Alors tu l'as dit, hein, Collodi c'est quelqu'un qui montrait la misère la misère d'Italie, et c'est quand même quelque chose qui est très enlevé dans le Disney qu'on n'a plus du tout, même dans le
oui,
Disney.
Complètement édulcoré, oui.
Très édulcoré, en plus c'est assez étrange parce que l'architecture italienne se transforme en architecture allemande dans le film. Pinocchio, il a des vêtements très bavarois, donc c'est assez étrange parce qu'ils ont complètement changé la culture italienne par de la culture allemande. Surtout quand tu sais que le film est sorti en 1942, je crois. Donc bon, il est sorti en pleine guerre. Donc le film a du coup a des choix esthétiques qui sont assez discutables.
Dans Comencini, où l'instituteur il demande à Pinocchio quel est le métier de ton père, et lui lui répond pauvre. Oui. Donc là, ça situe bien dans quel milieu social.
Exactement.
Vit Geppetto, qui est vraiment démuni de tout, quoi.
Tout à fait. Et ça, c'est très montré dans l'œuvre de Collodi, et le film de Comencini le montre vraiment bien. On sent cette pauvreté chez Geppetto. Et comme tu l'as dit, il y a une complicité entre, je pense, Comencini et Pinocchio, parce que, et c'est le cas dans le bouquin de Collodi, c'est le cas dans plusieurs adaptations, Pinocchio est souvent montré comme un gamin un peu détestable. Hein. C'est-à-dire que ça aussi, c'est très édulcoré dans la version Disney où on le rend très attachant. Dans le conte, Pinocchio, il est compliqué. Hein. Il est vraiment
sans gêne, il est désobéissant, voilà. Versatile, il est égoïste, il est capricieux, il est impertinent, il est volubile.
Bah, il a un peu tous les défauts.
Il est téméraire aussi, il est dynamique, mais il est espiègle, mais il peut être sincère également. C'est un vrai enfant, quoi. Mais Comencini, c'est vraiment aussi le cinéaste de l'enfance.
Voilà.
L'un des films qui m'a vraiment marqué chez Comencini, c'est L'Incompris. C'est magnifique, c'est douloureux, c'est magnifique. Et puis, quand il parle de Casanova, c'est un adolescent à Venise.
C'est ça.
Donc, Comencini, c'est un thème, l'enfance, donc il aime bien. Et d'ailleurs, quelque chose qui est surprenant aussi à la fin des aventures de Pinocchio, c'est que Pinocchio, finalement, devient pratiquement le père de Geppetto.
Oui.
Pour sortir de la baleine, du ventre de la baleine.
C'est vrai qu'il y a ce qui est montré. C'est assez pauvre, il ne sera pas ultra, je trouve, montré dans les autres adaptations de Pinocchio. Celui qui le refera bien, c'est Matteo Garrone, dans l'adaptation qu'il a fait en 2019 de Pinocchio, avec Roberto Benigni, qui avait joué le rôle de Pinocchio déjà quelques années avant, qui cette fois joue le rôle de Geppetto. Le film s'ouvre par Pinocchio qui taille avec ses instruments à bois des croûtes de fromage. Le film s'ouvre là-dessus, donc il y a tout de suite cette pauvreté qui est montrée. Et donc voilà, je vous conseille de voir d'ailleurs le Comencini et le Matteo Garrone un peu là-dessus, parce que c'est des films qui se répondent assez et qui ont un peu la même vision de Pinocchio tous les deux. Donc je vous conseille de voir une fois que vous aurez vu Pinocchio au moment de la quinzaine italienne, je vous conseille d'aller voir après le film de Matteo Garrone, qui est un film Amazon Prime, donc voilà, qui se trouve assez facilement. Je vais pas faire de publicité pour Amazon Prime, mais le film se trouve assez facilement comme ça. Voilà, on va enchaîner sur la suite, parce qu'on a pris beaucoup de temps sur Pinocchio, donc on va essayer d'enchaîner un petit peu. On va parler de Marx peut attendre, de Marco Beluccio.
Carissimo Marco, è quasi un anno che non ci vediamo.
Camillo era un ragazzaccio simpatico e con molta voglia di divertirsi. E quando finalmente si è, come avrebbe detto la mamma, sistemato, e lì c'è un mistero, caro.
Sai, poi ti dici, se mi avesse detto che cosa gli succedeva.
È stata una cosa che se l'aspettava.
Non... C'è una lettera di Camillo Ma scusa, questa lettera a me? A te?
E tu gli hai risposto?
Je vais te laisser en parler, parce que tu es seul d'entre nous à l'avoir vu. Tu connais sûrement un peu plus Marco Beluccio que je ne le connais, parce que je n'ai pas vu de film de Beluccio encore. Voilà, je te laisse en parler un petit peu, Jean-Claude.
Oui, alors Marco Beluccio, c'est un cinéaste, moi, qui m'a complètement subjugué lorsque, au rendez-vous de l'histoire, pas plus tard que l'année dernière, en 2022, j'ai découvert un film que je connaissais par son titre. Je savais que c'était un film qu'il fallait absolument voir, qui s'appelle Les poings dans les poches, qui a été tourné en 1965. Alors 1965, c'est la période où on est en plein néo-réalisme en Italie, et lui, il fait un film vraiment coup de poing et qui va complètement à l'encontre de ce courant et qui va marquer vraiment une rupture dans le monde du cinéma. Et il va continuer avec des films comme Les yeux et la bouche, Le sourire de ma mère, jusqu'en 2002. Il va avoir toujours une période d'une vingtaine d'années entre chacun de ses films. Et puis en fait, moi, quand j'ai découvert Marx peut attendre, qui était un documentaire qui a fait partie de la sélection officielle Cannes 2021, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait une histoire intime, une histoire bouleversante, familiale, qui était le fil rouge de ces films de Marco Bellocchio, qui expliquait la violence qu'il pouvait y avoir dans ces films. En fait, Bellocchio avait un jumeau, je dis avait parce que ce jumeau, il est mort à 23 ans et très probablement, enfin c'est même certain, il s'est suicidé. Et d'où le titre « Marx peut attendre », c'est l'une des dernières phrases que ce frère jumeau a prononcé avant de commettre ce suicide, auquel personne dans la famille ne s'attendait. Donc, il va interroger sa famille, parce que Marco Bellocchio, il a 82 ans au moment où il tourne ce film, et il va interroger sa famille et il va essayer de faire émerger la vérité et pourquoi dans cette famille il y a eu un silence sur cette mort. Alors, c'est une famille nombreuse, hein, je crois qu'ils sont sept enfants, et la maman est extrêmement religieuse, et évidemment pour une dame catholique, qu'un fils se suicide par rapport au précepte de la religion, c'est quelque chose d'absolument inacceptable. Donc on va inventer une histoire d'amour qui aurait mal tourné. Enfin bon, on va comme on le fait tous d'ailleurs, on va se créer une histoire que notre conscience est capable d'accepter pour pouvoir survivre à un événement aussi douloureux. Alors ce qui est intéressant dans Marco Bellocchio, c'est que lui va porter aucun jugement sur les gens qu'il interroge. Ça peut être sa famille, ça peut être aussi un évêque qui suivait ses films et qui en faisait toujours une interprétation religieuse, alors que Marco Bellocchio est complètement athée. Mais il y a toujours des passerelles qui peuvent se faire entre la religion et l'athéisme. Et donc Marco Bellocchio, il va, en interrogeant ses frères et sœurs, avoir des versions complètement différentes sur ce qui a pu se passer, comment les gens ont pu le voir. Et c'est à nous, spectateurs, d'essayer de démêler tout ça et d'en tirer une certaine vérité, tant est que la vérité, c'est vraiment du sens. Ça me rappelle toujours cette phrase de Renoir qui disait que chacun a ses raisons. Et que, voilà, ça explique pourquoi on voit les choses chacun en se protégeant en même temps, quoi. Donc, je pense que ce film-là, alors soit on peut le voir après avoir vu les mains dans les poches, pardon, soit c'est un film qui incitera justement à voir ces films pour les découvrir, pour voir effectivement la douleur qu'il y avait derrière et cette espèce de pulsion finalement qui obligeait, qui imposait à Marco Bellocchio de tourner ce genre de film, parce que je pense qu'il y a toujours, en tout cas chez l'artiste encore plus que chez nous, une espèce de pulsion très forte qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on ne se connaît pas forcément soi-même, mais qui nous pousse dans un sens à créer des histoires et qui explique la violence qu'on peut voir justement par rapport au personnage des mains dans les poches, par rapport à la mère, quand on a cette histoire-là racontée par Marx peut attendre, d'un seul coup ça prend un sens nouveau.
Bah merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir fait ces très beaux retours sur le film qui me donne très envie d'aller le voir et de découvrir Bellocchio.
C'est vraiment un grand auteur du cinéma italien.
Mm-hmm. Je pense que c'est peut-être aussi pas mal une porte d'entrée sur son cinéma quand on connaît pas.
Sur certains de ses films, en tout cas.
Sur certains de ses films, ouais. On va conclure avec Théorème de Pier Paolo Pasolini.
That boy. Good boy.
Mi hai sedotto, Dio. E io mi sono lasciato sedurre. Devo partire. Domani.
Ma ciò che invece tu stesso mi hai dato, l'amore nel vuoto della mia vita, lasciandomi, lo distruggi tutto. Che può sostituirti, credo che io non potrò più vivere.
Io non riesco più a riconoscere me stesso. Che cosa sarà di me d'ora in poi? Hai distrutto semplicemente l'idea che ho sempre avuto di me.
qui sera diffusé déjà dans la quinzaine, mais qu'on va rediffuser pour trois autres séances, la dernière semaine de juin, première semaine de juillet, qui sera le dernier film de la programmation de la saison de Cinéphile d'ailleurs. Voilà, on conclura la programmation de Cinéphile par Théorème de Pier Paolo Pasolini. Pareil, qui est un film que j'ai pas encore vu, qui est avec des actrices italiens, Silvana Mangano, mais aussi un acteur qui, je crois, est anglais, il me semble, c'était
Terrence
Stamp. Grand acteur anglais assez historique, qui joue dans ce Pasolini. Moi, je l'ai pas vu. Moi, je sais que c'est un film que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir vu. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'en glisser quelques mots?
Non, moi, je l'ai vu il y a très longtemps.
Oui, c'est le cas. C'est le même cas pour moi. Mais c'est un film qui nous marque quand même.
Oui, c'est un film qui est marquant et que finalement, quand on a commencé à discuter de la programmation qu'on a évoqué Théorème, je me suis dit, mais finalement, depuis sa sortie en 69, on l'a peu vu, on l'a peu montré.
Oui.
Et je pense que c'est aussi une raison de le revoir et de voir son actualité.
Ouais, le ressenti qu'on peut avoir actuellement. Oui, c'est un film essentiel de toute façon,
oui.
Pasolini. Et puis Pasolini, il est essentiel
oui.
De toute façon, parce que ça fait partie vraiment des grandes références. Moi, je voyais un film sur Tarkovsky il n'y a pas très longtemps, et Tarkovsky, Pasolini, il y a des liens évidents sur les thèmes qu'ils vont privilégier dans leur cinéma. On parlait de Terrence Stamp, je reviens un petit peu parce que c'est rigolo, parce que là, il va jouer le rôle d'une sorte d'ange, on va dire un ange dévastateur dans une famille bourgeoise milanaise. Et en fait, ce Terrence Stamp, il a été repéré par Peter Ustinov, et qui dès le départ l'avait utilisé parce qu'il a un visage, selon lui, pur, et qu'il dégage une très grande innocence. Et ça explique qu'il a obtenu facilement le rôle dans Théorème. Silvana Mangano, pour donner envie aux gens d'aller le voir, c'est l'actrice qu'on a vue dans Riz amer, comme une repiqueuse de riz provocante avec shorts courts et corsage moulant. Elle a quand même Miss Rome en 1946, et elle est talentueuse. On a là de grands acteurs. J'ajouterai Massimo Girotti, qu'on connaît surtout par Les Amants Diaboliques, qui est en fait un film qui reprend le roman Le Facteur sonne toujours deux fois. On le retrouvera aussi dans Le Dernier Tango à Paris, rival chanceux de Marlon Brando, et dans Monsieur Klein également, avec.
De Louis Frézé.
Et dans Passion d'amour, justement. Dans Passion d'amour, qu'on va diffuser aussi, on aura aussi Massimo Girotti, qui est un des grands, grands acteurs des années. Depuis les années 40 jusqu'aux années 80 du cinéma italien. Voilà. Donc pour le film, effectivement, c'est un personnage mystérieux. On le connaît seulement sous le nom de visiteur. Et il fait son apparition dans la vie tranquille jusqu'à présent d'une famille milanaise bourgeoise. Et là, il est accueilli à bras ouverts, mais il va avoir des rapports extrêmement étranges, carrément des rapports sexuels, même avec chacun des membres de la famille. Alors, il y a la bonne qui est pieusement religieuse, et celui d'amitié, il va coucher avec le fils, mais il va avoir aussi des relations avec la mère qui est au départ sexuellement refoulée. Voilà, donc tout ça peut paraître absolument scandaleux, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce que à travers la présence de ce visiteur, il va en fait redonner à chacun des personnages leur vraie personnalité qui était jusqu'à présent dissimulée sous une prestance sociale qui permettait d'apparaître comme de bons bourgeois tranquilles. Et par exemple, le fils, qui était une personne extrêmement anxieuse, il va réussir à lui calmer son anxiété, à lui redonner confiance. La mère va s'épanouir sexuellement, elle qui jusqu'à présent était refoulée sexuellement. Voilà, donc chaque personnage va en fait sortir d'un état de tourmenté pour se révéler dans ce qu'il est réellement, quoi. Alors, je tiens à souligner que ce film, quand même, qui est scandaleux, qui a fait scandale, en fait, il a été très très bien compris par l'office catholique du festival, au Festival de Venise, puisqu'ils lui ont donné leur prix. Alors, ce qui prouve que ce film, c'est pas seulement un film qui est fait pour choquer, même si ça peut choquer, mais qu'il y a un sens beaucoup plus profond derrière, et que ce film, il faut absolument le voir, parce que c'est vraiment une merveille du cinéma de Pasolini. Alors, Pasolini, c'est quelqu'un qui dérange tout le temps, qui provoque, il l'a payé très cher, hein, on sait comment pour lui ça a pu se terminer, mais en même temps, c'est un grand éveilleur de conscience, et je crois que ce film-là, il est vraiment révélateur de cet éveil des consciences qu'on peut avoir à travers un personnage qui est un véritable ange, finalement.
Je pense que de toute façon, Pasolini, il voyait justement cet éveil de conscience toujours par une certaine violence. Je pense pour lui, choquer et était utile pour pouvoir pour prendre du recul et réfléchir. Enfin voilà, le cinéma de Pasolini, il est souvent abrupt à la première fois. Moi, je sais que voilà, mon premier film de Pasolini, ça a été compliqué. c'était Oedipe Roi, le premier film de Pasolini que j'ai vu. La première fois, c'est quand tu connais pas et que tu sais pas dans quoi tu t'embarques, tu le prends en pleine poire et il faut prendre un peu de recul, quoi, parce que c'est.
Moi, je pense que de toute façon, il y a déjà une première chose qui montre à quel point c'est un génie, c'est que ces films, on les oublie pas.
Tout à fait.
Là, moi, c'est vrai qu'il y a bien 30 ans que j'ai vu Théorème, mais Théorème, j'ai encore des images en tête, pas toutes, mais il y en a certaines qui seront à vie dans ma tête, je ne peux pas les oublier. Alors qu'il y a beaucoup de films, ouais, ça m'a plu sur un premier coup, puis après, on en reparle, je sais plus si je l'ai vu.
Parce qu'on oublie, et puis
tant mieux si on oublie les films, ça signifie quelque chose quand on oublie des films, ça signifie aussi quelque chose quand on s'en souvient à vie. Alors je crois qu'il y a un premier temps où effectivement ces films on les prend en pleine figure, et puis il y a un temps de la réflexion où ça mûrit dans notre tête, et puis peut-être qu'on les revoit longtemps après, mais n'empêche qu'il y a un moment où on est prêt. Moi, c'est pareil en littérature, hein, quand on essaie de lire Proust, si on a 18 ans, en général, on repose vite le bouquin, et puis on arrive à 60 ans ou moins, enfin peu importe, ça dépend des gens, puis est-ce que l'on s'aperçoit, mais c'est génial ce truc, j'ai jamais vu ça, enfin bon, et on y passe pratiquement des mois et des années, tellement on adore. Donc vraiment, Pasolini, c'est un indispensable du cinéma italien, du cinéma en
général, hein, parce que même dans le, il dénotait un peu, hein, dans le cinéma italien qui se produisait à son époque. Dans la Théorème, il sort en 69, l'aube des années 70. Je trouve que voilà, si on compare aux réalisateurs qui étaient les grands réalisateurs italiens de la même époque, et Scola par exemple qui a pas mal œuvré à ce moment-là, Vittorio De Sica, tout ça, je trouve que Pasolini, il dénote quand même de ça, il est pas dans cette mouvance-là, il a jamais rentré dans une mouvance qu'on pouvait retrouver en Italie, le néoréalisme, la comédie italienne, tout ça, il y a pas de code dans le cinéma de Pasolini, c'est un cinéma qui appartient qu'à lui en fait, il dénote un peu du reste, et donc voilà, c'est toujours
c'est un génie du cinéma, il est à part, il a sa propre cinématographie, mais il est d'une culture énorme, c'est vraiment quelqu'un dans ses films, je pense que on n'arrivera jamais à creuser tout ce qu'il y a derrière ces films, en fait. On peut les voir, les revoir, et on s'en enrichira toujours.
Voilà, c'est le cas de Salo, par exemple. Ceux qui ont vu Salo, je pense, ne sont jamais oubliés. Et c'était un film qui...
Il jouait avec les limites, quand même.
Et c'est un film qui a choqué beaucoup de monde, mais tous ceux qui ont vu Salo, par exemple, dans mon entourage, il choque sur le coup, les gens le rejettent un peu la première fois, et puis après, il y a une réflexion, on fait « Ah, attends, quand même, ce qu'il dit dans ce film, c'est quand même... » Et malgré ce que le film dégage, on a quand même envie d'y retourner pour essayer de comprendre ce qu'on a vu, en fait. Et voilà, et c'est le cinéma de Pasolini, il est passionnant pour ça, voilà. On va conclure parce qu'on a un peu dépassé le temps déjà je le voyais venir parce qu'on a 6 films italiens et 6 films passionnants à débattre et en parler avec vous. Il est venu temps de conclure, donc on va terminer cette émission, et je vais terminer en vous remerciant Michel et Jean-Claude d'avoir pu parler de cette quinzaine du cinéma et de tous ces films italiens. Je rappelle que la quinzaine, notre quinzaine italienne sera donc du 25 mai au 5 juin, que les films seront diffusés principalement au cinéma Les Lobbies, mais il y aura juste Marx peut attendre le samedi 3 juin, qui sera présenté par René Marx dès 14h à l'auditorium Samuel Paty, et cette présentation sera suivie en fait d'une leçon de cinéma autour de la famille aussi dans le cinéma italien. Voilà. Oui. Michel.
Oui, je voulais juste rajouter que dans la même période se tiendra à côté de la Halle aux Grains, sur la place de la République, un village italien. Black Fida a aidé à l'émergence de ce projet, donc qui présentera de l'artisanat et des produits de bouche. Il y aura des choses à manger, des choses à boire. Donc avant le cinéma ou après le cinéma, c'est aussi une chose à faire pour rester en Italie.
Mais tout à fait, on ira avec grand plaisir. Voilà, vous allez voir un film italien, et puis après vous allez au village ou l'inverse. Ben voilà, vous allez passer deux semaines purement en vivant l'Italie, disons, à travers toutes ces cultures. Merci encore d'avoir été avec moi, et on se retrouve pour une prochaine émission. Passez tous une très bonne journée et de très bonnes séances. Au revoir.